Vous écoutez On lit pour vous.
Quand toute une ville ralentit, un texte de Suzanne Colperon, paru le 6 juillet 2024 dans la presse. Lac Mégantic a dû se réinventer au lendemain de la tragédie ferroviaire survenue le 6 juillet 2013. Elle a choisi de le faire en misant sur la douceur. C'est en effet la seule ville du Québec qui fait partie du réseau international CITASLOW, un regroupement de près de 300 villes, petites et moyennes, où il fait bon vivre, lentement. Ça colle bien à la communauté qu'on veut bâtir. Si vous trouvez que ça va trop vite, votre bonheur est peut-être à Lac Mégantic, seule ville québécoise certifiée CITASLOW. CITA quoi? CITASLOW, un mouvement international fondé en Italie en 1999, dans la foulée du slow food, lequel prône l'alimentation saine et durable en opposition au fast food, qui revendique la lenteur au quotidien. Le concept n'a rien à voir avec être slow-mo, prévient la mairesse Julie Morin, qui, plutôt que de lenteur, préfère parler de bien vivre. Une ville où on prend le temps d'échanger, de contempler et de bien faire les choses. La désignation CITASLOW ne s'obtient pas en un claquement de doigts. La charte comprend 72 recommandations et obligations, classées sous 7 thèmes. Parmi elles, la protection de l'environnement, l'implantation de commerces de proximité, la création de places publiques, le soutien des produits locaux et des artisans, la participation des habitants à la vie municipale ou encore la protection du ciel étoilé. Autant de bonnes pratiques que Lac Mégantic avait déjà pour objectif avant d'obtenir sa certification en 2018. C'est quelque chose qui nous est cher. D'abord parce que c'est distinctif, mais on pense que ça colle bien à la communauté qu'on veut bâtir, explique Stéphane Lavallée, qui a dirigé le bureau de reconstruction au lendemain de l'accident ferroviaire du 6 juillet 2013, qui a coûté la vie à 47 Mégantiquois. Je ne dis pas qu'on est à 100% sur tous les aspects de CITASLOW, mais il y a 72 critères et on travaille fort pour se distinguer dans une majorité. Un monde meilleur. L'idée d'adhérer à CITASLOW est venue d'un groupe de citoyens amoureux de leur ville, particulièrement Claude et Jean, glisse la mairesse de 41 ans dans son bureau de l'hôtel de ville, qui donne sur le lac et les montagnes au loin, lors du chantier de reconstruction, lancé en 2013. À la suite de la tragédie, la ville avait perdu ses repères. On se disait, qu'est-ce qu'on veut reconstruire comme ville? Pour ça, il faut savoir qui on est et ce qu'on veut. Il y avait vraiment une quête d'identité, nous dit Julie Morin, mairesse de Lac Mégantic. CITASLOW, qui repose sur la philosophie selon laquelle un monde meilleur commence dans sa propre communauté, correspondait à cette nouvelle identité. Le conseil municipal a demandé au bureau de reconstruction de travailler avec les citoyens pour remplir le formulaire d'inscription. Consommation d'eau potable, pistes cyclables, gestion des matières résiduelles, protection des enfants, des personnes handicapées, culture, capacité d'accueil de l'hôpital, etc. C'était quand même un gros travail, souligne la mairesse, à la tête de la ville depuis 2017. Le document, traduit en italien, a été envoyé à CITASLOW International en novembre 2017. 6 mois plus tard, la ville s'est jointe au réseau qui compte aujourd'hui 297 villes lentes dans 33 pays, dont 4 au Canada. Lac Mégantic, Cowichan Bay et Naramata en Colombie-Britannique et Wolfville en Nouvelle-Écosse. Vue sur le lac. L'une des premières mesures de l'ère Cita Slow a été la création, au centre-ville, de corridors verts, des percées visuelles vers le lac. Avant, on pouvait passer au centre-ville sans même voir le lac. Alors là, ça a été prévu. Ce sont des améliorations qu'on a pu faire à cause de la tragédie, précise Julie Morin. La ville, au cœur de laquelle passe toujours le train, a aussi ajouté des pistes cyclables, des trottoirs plus larges et des panneaux solaires sur les toits des nouveaux bâtiments du centre-ville. Nous, on a perdu des concitoyens à cause du pétrole, dit l'entrepreneur et consultant Stéphane Lavallée. On s'est demandé comment on pouvait donner un exemple et inspirer les petites communautés comme la nôtre, et c'est là qu'est née l'idée de devenir un leader de la transition énergétique dans le monde rural, à la taille des villes de 5 000 à 10 000 habitants. Lac Mégantic a convaincu Hydro-Québec de venir installer le premier micro-réseau électrique dans un centre-ville au Québec. Ça aussi, c'est une signature forte, assure M. Lavallée, qui a longtemps travaillé dans les médias écrits, notamment à la presse. Ça devient en même temps un laboratoire humain. C'est-à-dire que la transition, on voit souvent ça sur le plan technologique, alors que là, c'est un projet humain, parce qu'on est en train d'intégrer de nouvelles technologies collaboratives autour de la gestion de l'énergie dans un nouveau HLM en construction. C'est difficile de voir ça sur le trottoir, parce qu'il n'y a pas d'affiche qui dit ça. Mais quand tu mets tout ça ensemble, puis l'esprit de la ville, les spectacles gratuits dans le parc, puis plein d'autres trucs, ça fait de Mégantic une ville qui se distingue. Une colonne vertébrale. Pour la mairesse Julie Morin, Cita Slow est devenue la colonne vertébrale de la ville. Ce n'est pas qu'une image, dit-elle. C'est vraiment une prise de position. C'est vraiment une manière de vivre. On en parle tout le temps. Et on l'entend de plus en plus. Mon voisin d'à côté est tombé sur le mouvement Cita Slow. Il a dit « Ben voyons, c'est bien beau ça ». Il est venu à Lac Mégantic et il a décidé de déménager. Originaire de Granby, Mme Morin est aussi tombée en amour avec cette ville de 5800 habitants où elle s'est établie en 2011 avec son conjoint pour fonder une famille et ralentir le rythme. C'est un joyau encore pas si connu des cantons de l'Est, dit-elle. On est au centre de tout. On est à 3 heures de Montréal et à 2 heures de Québec. On aime faire des sorties, mais pour le quotidien, on a choisi le bonheur. Trouve-t-elle que la vie va trop vite? Ben oui, des fois, on trouve qu'on a une vie de fou ici aussi. Mais au lieu de passer 2 heures dans le trafic à Montréal, en 5 minutes, je suis à la maison. Vous écoutez, quand toute une ville ralentit, un texte de Suzanne Colperon, paru le 6 juillet 2024, dans la presse. La vitesse des horloges. Prendre le temps, c'est une prédisposition qu'on doit d'abord adopter, parce qu'il n'y a personne qui vient ralentir les horloges chez nous. Ça tourne à la même vitesse que tout le monde, ajoute Stéphane Lavallée, dont les 3 fils, Jérôme, Félix et Hubert, ont déménagé à Lac Mégantic. Jérôme et sa conjointe, Katia Derbel, ont ouvert le Ditchfield, un micro-torréfacteur rue Salaberry. La communauté est vraiment forte ici. Tout le monde se connaît, tout le monde est super sympathique, mais le rythme de vie est plus lent. Les gens prennent le temps de se voir, puis de passer du temps à l'extérieur, souligne Katia. À la porte voisine, Sarah Giroir dirige le quartier artisan, dont la mission est d'outiller les artisans entrepreneurs de tout le Québec. Au début de la pandémie, je ne me suis pas posé la question bien longtemps, lance-t-elle. Je connaissais beaucoup de monde. Le projet Quartier Artisan était déjà bien ancré, mais il manquait une véritable présence à ce moment-là. Donc, j'ai acheté une maison, un chien, un char, tout le kit. En savoir plus, 50 000. Pour obtenir la certification Citaslo, une ville ne doit pas dépasser 50 000 habitants. Le plus beau des greeters. Paul Dosti est un greeter. Le plus beau, le plus grand, le plus merveilleux, dit la mairesse Julie Morin. Un greeter, c'est un citoyen qui fait visiter sa ville gratuitement en racontant plein d'anecdotes, un concept né en 1992 à New York. M. Dosti, professeur de secondaire à la retraite, a enseigné à la moitié des 47 victimes du tristement célèbre déraillement de train. Il nous a fait visiter sa ville à pied, dans l'esprit du Citaslo. L'arrivée du train. Le train est arrivé à Lac Mégantic en 1878, rappelle M. Dosti. Mégantic, c'est, à ma connaissance, le seul village qui ne s'est pas construit autour de l'église, parce qu'ici, ça s'est construit autour de la voie ferrée, puis de la forêt. À l'époque, Lac Mégantic n'est pas un petit village francophone québécois, dit-il. Non, non, non. Vous aviez ici des Écossais, des Irlandais, des Britanniques, des Américains et des Canadiens français. On a toujours été plus nombreux, mais tout se faisait en anglais. C'était une ville cosmopolite. Les premiers sont arrivés en 1855, les Canadiens français vers 1870. Dès le début, c'était une ville de saloons, de bordels et de jeux. Les bûcherons. Les familles vivaient à Lac Mégantic, mais les travailleurs étaient dans les camps de bûcherons du Maine, de la Beauce, de Scotstown et de Dorset. Puis, les fins de semaine, ça s'en venait à Lac Mégantic, raconte Paul Dosti. En 1882, il y avait 200 habitants et 7 hôtels. Un des premiers règlements a été d'interdire de se baigner sans costume de bain. Les gens sortaient des camps de bûcherons où il n'y avait pas d'eau courante et se lavaient dans le lac. Un mot Abénaki. Mégantic, c'est un mot Abénaki qui signifie « lieu où se tiennent les poissons ». Le lac Mégantic est très poissonneux, précise M. Dosti. En 1855, il y avait de la pêche commerciale sur le lac. Il n'y avait aucune route. Le train n'était même pas encore là. Puis, le poisson était vendu à Boston. Il y avait beaucoup de poissons. De la bouananiche, de la truite brune, de la chigan à petite bouche, un peu de perchaude, beaucoup d'éperlans. Mais le poisson le plus intéressant, c'est la bouananiche. C'est le saumon d'eau douce. Ah, ça, c'est combatif. Prendre une truite grise, c'est comme si tu avais un morceau de bois. Ce n'est pas intéressant. La bouananiche sort de l'eau, puis elle se débat. Le vitrail monumental. La verrière de l'église Sainte-Agnès fait plus de 8 mètres de haut et 5,5 mètres de large. C'est un vitrail de style néo-gothique extraordinaire, réalisé en 1848 en Angleterre et installé à l'église Immaculée-Conception, à Londres, sous la responsabilité des jésuites. Comment s'est-il retrouvé à Lac Mégantic? En fait, c'est une œuvre de seconde main. Les jésuites, insatisfaits de ce vitrail, ont voulu le remplacer. Ils en ont commandé un autre, en 1912, aux ateliers Hardman, en Angleterre. Ils le trouvaient terne, mais il fallait juste l'essuyer. C'était la suie du chauffage au charbon et des bougies, dit M. Dosti. La Providence faisant bien les choses, un ancien paroissien de Compton, près de Sherbrooke, Parti travailler aux ateliers Hardman, a offert le vitrail de 1848, nettoyé, au curé de la paroisse de Sainte-Agnès, dont l'église est alors en construction. La promenade Papineau. Inaugurée en 2014, la promenade Papineau a été construite pour relocaliser les commerces détruits par l'explosion du train pétrolier. Ce sont les commerçants qui ont poussé la ville à reconstruire un nouveau centre-ville, parce que c'était leur gagne-pain, explique M. Dosti. Mais tous les anciens commerces ne sont pas là. Le bureau de poste, par exemple, est en haut de la ville. Il n'est plus au centre-ville. Et là-bas, où le camion descend de l'autre bord, tu vas avoir ta SAQ, tu vas avoir ton métro, puis tu vas avoir ton Jean Coutu. Avant, il y avait toujours un va-et-vient parce que les gens allaient à la poste, allaient à la bibliothèque, allaient au magasin de meubles, allaient à la pharmacie. Tout était regroupé, ce qui fait que ça se faisait bien. C'était, quand toute une ville ralentit, un texte de Suzanne Colperon, paru le 6 juillet 2024 dans La Presse.
Quoi de neuf pour le solaire? Un texte de Mathieu Perrault, paru le 9 juin 2024 dans La Presse. Quels sont les derniers développements dans les cellules photovoltaïques? Demande Cyprien Théodosieux, un lecteur. L'une des révolutions est le panneau bifacial, qui augmente la production d'électricité de 20 % à 30 % parce qu'il en génère des deux côtés. Le prix des panneaux solaires bifaciaux a beaucoup baissé et est presque devenu équivalent à celui des panneaux traditionnels, explique Marco de Blois, cofondateur de Rematec Énergie, un distributeur de produits d'énergie renouvelable qui a créé un logiciel de conception d'installations électriques hors réseau. Et le prix des panneaux solaires en général a recommencé à baisser, après avoir un peu augmenté durant la pandémie à cause des pénuries. Les panneaux bifaciaux font notamment fondre la neige plus vite, à cause de la chaleur générée par la production d'électricité sur la face du panneau dirigé vers le bas. La perte associée à la neige avec les panneaux traditionnels est de 4 % à 5 % par an, selon M. De Blois. L'installation et les batteries ont aussi connu des avancées. Avant, l'électronique était vendue de manière séparée, dit M. De Blois. Maintenant, il y a une panoplie de produits intégrés, tous les composants dans une boîte. Ça réduit les coûts d'installation. Le coût des batteries au lithium a aussi baissé, au point qu'elles sont plus avantageuses que les batteries traditionnelles au plomb. Elles durent 10 ans au lieu de 3 ans et on peut les décharger à 90 % alors qu'il ne faut pas utiliser plus de la moitié de l'énergie des batteries au plomb pour ne pas les endommager, dit M. De Blois. Deux recherches en cours. Les ingénieurs dans les universités planchent par ailleurs sur de nouvelles avancées. À l'Université d'Ottawa, l'ingénieur électrique Karin Inser a publié depuis 1 an 2 études sur les améliorations aux panneaux solaires. L'une de ces études, publiée dans la revue Progress in Photovoltaic, porte justement sur les panneaux bifaciaux. Nous installons des surfaces blanches réfléchissantes sous les panneaux bifaciaux pour amplifier la production d'énergie, explique Mandy Lewis, une étudiante au doctorat supervisée par Mme Inser, qui est l'auteur principal de l'étude. Ces matériaux réfléchissants sont peu coûteux. Et il y a un gain plus élevé à des latitudes plus nordiques, dit Mme Lewis. Les premiers marchés seront les bâtiments à toit plat commerciaux et industriels, selon Mme Inser. L'autre étude, publié dans la revue Cell Reports Physical Science, mettra un peu plus de temps à avoir des applications concrètes. On parle d'une nouvelle génération de cellules photovoltaïques micrométriques, explique Mathieu de la Fontaine, un chercheur postdoctoral qui est l'auteur principal de l'étude. Ces cellules micrométriques pourraient être installées sur des téléphones cellulaires et leur fournir assez d'énergie parce qu'elles sont plus efficaces. Sur ces cellules micrométriques, l'ombre générée par les électrodes recueillant l'électricité est réduite de 95%. Les premiers marchés seront ceux où la taille et le poids des cellules photovoltaïques doivent être réduits au minimum, comme les satellites ou l'Internet des objets. En savoir plus, source Radio-Canada, 19 ans, nombre d'années pour rentabiliser un système de panneaux solaires sur un toit à Montréal. 5 ans, nombre d'années pour rentabiliser un système de panneaux solaires sur un toit à Calgary. C'était « Quoi de neuf pour le solaire ?», un texte de Mathieu Perrault, paru le 9 juin 2024 dans La Presse.
Rouyn-Noranda, mine d'or culturelle. Un texte de Salomé Corbeau, paru le 3 juillet 2024 dans Le Devoir. C'est le plus beau métier du monde, s'écrit Raymond DeVos dans son monologue intitulé « L'artiste ». Ce texte habile raconte l'histoire d'un artiste qui tente de se tenir debout sur les planches d'une scène comme s'il s'agissait d'un radeau en pleine mer. C'est aussi dans ce numéro poético-comique qu'on peut entendre ce passage amusant et malheureusement vrai. « Mesdames et messieurs, la planche pourrie sur laquelle j'ai eu l'honneur de sombrer pour la dernière fois devant vous ce soir était sponsorisée par le ministère de la Culture, et il coule avec la subvention. » Mais laissons là le génie comique de DeVos et l'importance de subventionner les artistes. Ce sera certainement le sujet d'une autre chronique un jour, n'en doutez point. Revenons plutôt au sens de la première phrase. Je suis une artiste et je suis persuadé que j'exerce le plus beau métier du monde. Grâce à ce travail marginal, j'ai voyagé en France, en Belgique, en Italie, au Royaume-Uni, en Suisse. J'ai vu l'Ouest canadien, j'ai arpenté le Québec de long en large. Chaque fois, j'ai rencontré des gens passionnés, amoureux des arts et convaincus de l'importance fondamentale de la culture. C'est donc à l'occasion du Festival d'humour émergent, le FHE, que je suis retourné en Abitibi-Témiscamingue, plus précisément à Rouyn-Noranda. C'est de cette fabuleuse ville que j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Située à près de 630 km au nord-ouest de mon Montréal natal, cette cité minière au cœur de la forêt, accrochée aux rives du lac Osisko, qui signifie « rat musqué » en algonquin, où des Autochtones ont vécu pendant plus de 8000 ans avant l'arrivée des colons, où la société industrielle du début du 20e siècle a découvert des sols si riches qu'elle a éventré la terre pour en extraire les métaux précieux, est devenue au fil du temps une perle de dynamisme culturel. Ces derniers temps, quand les médias parlent de Rouyn-Noranda, c'est avant tout pour en relater des problèmes environnementaux dus aux émissions d'arsenic reliées à l'activité de la fonderie Horn. À juste titre, on surveille les faits et gestes de la multinationale Glencore, propriétaire de l'usine. On s'inquiète de savoir si la ville peut survivre à une éventuelle fermeture du complexe industriel. La production de cuivre a longtemps été le gagne-pain de toute la région, à tel point qu'un centre de la petite enfance situé à quelques centaines de mètres de la fonderie porte le nom d'anode magique, en référence aux anodes de cuivre produites à l'usine. C'est par le truchement de l'œuvre de Richard Desjardins en 1990 que j'ai découvert l'existence de la fonderie dans la sublime chanson « Et j'ai couché dans mon char ». J'entends la fonderie qui roche. Pour ceux qui ne savent pas, on y brûle la roche, et des tonnes de bons gars, les grandes cheminées éternelles comme l'enfer, quand le gaz m'a pogné, je suis venu tout à l'envers. Entendez-vous la rumeur, la loi de la compagnie? Il faudra que tu meures, si tu veux vivre, mon ami. C'est donc tout naturellement qu'en arrivant à Rouyn-Noranda, j'ai voulu voir la fonderie de plus près. Impossible à rater. Les grandes cheminées dont parle Desjardins dominent la ville. Un peu à la manière de la tour Eiffel, elles nous servent de repère quand on se promène dans les rues. Mais c'est justement en m'y promenant que j'ai découvert bien plus qu'une ville industrielle. Tout d'abord, j'ai croisé des dizaines de peintures murales et de sculptures. Une recherche rapide sur le joli site Internet de la ville permet de découvrir qu'il s'agit d'un circuit d'art public dont les œuvres ont été réalisées par des artistes locaux. Au fil de mes déambulations, je découvre le bar Librairie Livresse, un lieu coloré, calme et invitant, où l'odeur des livres neufs se mêle à celle d'un expresso fraîchement coulé. Derrière le comptoir, la propriétaire et une employée, venue de France spécialement pour vivre et travailler à Rouyn-Noranda, me confirment que la vie culturelle y est foisonnante. D'ailleurs, il me suffit d'attraper le programme du Théâtre du Cuivre pour découvrir la variété des artistes qui y sont invités à longueur d'année. Ensuite, je tombe sur la programmation riche et diversifiée du Petit Théâtre. J'en profite aussi pour manger à une terrasse de la rue principale, devenue une zone piétonne pour l'été. On s'affaire à monter de petites scènes extérieures sur lesquelles se succéderont des artistes pendant la belle saison. Je suis subjugué par cette ville de quelque 43 000 habitants, dont les cafés, les bars et les parcs se transforment en scènes permettant d'offrir de la culture pour tous les goûts et tous les budgets. Lorsque je demande aux gens ce qu'ils pensent de la fonderie, tous semblent entretenir une relation d'amour-haine avec la bête. Mais si je leur demande de quoi ils sont le plus fiers, tous me répondent que c'est de la vitalité culturelle de leur ville. Il y a de quoi être fier. Depuis plus de 40 ans, Rouyn-Noranda a vu son offre culturelle exploser, avec des figures de proue comme le Festival de musique émergente, FME, et depuis 1982, le célèbre Festival du cinéma international en Abitibi-Témiscamingue. Je vous laisse sur la citation qu'on peut lire sur une plaque à l'entrée du Théâtre du Cuivre. Elle est de Serge Gainsbourg et contient une faute qu'on a jugé bon de laisser telle qu'elle et qui ajoute un peu de poésie. Ça, c'est le comble du snobisme. Refuser Cannes, Venise, Berlin et venir à Rwanda. Ça, c'est classe. C'était Rouyn-Noranda, mine d'or culturel. Un texte de Salomé Corbeau, paru le 3 juillet 2024 dans Le Devoir.